France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le cartel du mobile. Entre 1997 et 2003, SFR, Bouygues, Télécom et Orange se sont mis d'accord sur les tarifs des forfaits de téléphone portable. Les trois opérateurs téléphoniques étant à l'époque les rois de ce marché, ils ont formé ce qu'on peut appeler un cartel très juteux. Du prix du SMS à celui des forfaits en passant par celui des communications internationales, ils se sont partagés le marché, et ce, de manière totalement illégale. Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, ce système leur aura rapporté près de 182 millions d'euros par mois. À cette époque, les Françaises et les Françaises commencent à s'équiper et comprennent très vite qu'on ne pourra pas se passer de portable au risque d'être désocialisé. Autrement dit, ils n'ont pas le choix et doivent s'acquitter d'un abonnement autour des 500 euros par an, ce qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Personne ne s'est rendu compte de la mascarade, ni l'autorité de la concurrence, ni les consommateurs, avant que l'UFC Que Choisir et la justice ne s'en mêlent. Au bout du compte, les trois opérateurs historiques ont dû payer une amende colossale et faire face à l'arrivée d'un quatrième opérateur, Free, et ses prix cassés. Notre invité aujourd'hui, Cédric Musso, directeur de l'action politique chez UFC Que Choisir. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Boisec, rédaction en chef Franck Cognard, chargé programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Nous sommes le 10 janvier 2012 et sur l'écran, les 200 journalistes présents dans la salle regardent une fusée décoller. Ça y est, il y a un quatrième opérateur sur le marché. Habillé d'une chemise blanche et d'un jean, Xavier Niel, Jean-Luc à la Steve Jobs, est seul sur scène. Il tient un micro sans fil et s'apprête à changer à jamais la tarification des forfaits mobiles en France. Dans un amphithéâtre parisien, le PDG de Free explique pendant près de 40 minutes l'arnaque montée par les opérateurs historiques du mobile au détriment des consommateurs. Les tarifs, les règles, les obligations, les contrats, selon lui, rien ne va. Alors, il décline son offre. S'appuyant sur un PowerPoint, sur des études de brochures et des tarifs, Niel est définitif. Si vous ne vous abonnez pas à Free, si vous n'adhérez pas à cette offre, vous êtes des pigeons.
On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde. À un prix de 19,99€. C'est-à-dire de faire de l'illimité dans lequel... Je remercie mes collègues. C'est-à-dire de faire un forfait dans lequel vous avez tout ce que je vous dis, c'est dit précédemment, pour 19,99€. Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99€ et que vous appelez pas votre opérateur et que vous venez pas ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. On fait de la marge là, hein. On fait pas de perte, on fait de la marge. On fait de la marge à 2€. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse.
Pendant cette grosse demi-heure, Xavier Niel répète « Ils se sont bien moqués de vous ». Il insiste sur les tarifs exorbitants des opérateurs historiques, un non-sens selon lui. Il est clair qu'il a en tête ce qui a été révélé 7 ans plus tôt. L'entente illégale des opérateurs historiques, découverte par l'autorité de la concurrence, ou comment, pendant de longues années, SFR, Orange et Bouygues Télécom se sont mis d'accord sur les tarifs et les conditions d'utilisation.
Merci.
Revenons en arrière. 10 ans avant, donc, en 2002. À cette époque, 37 millions de Français possèdent un téléphone mobile. La technologie va vite. Chaque année, de plus en plus de personnes ont ce nouvel outil en poche. Et c'est également le moment où le marché du mobile accueille un nouvel arrivant, le smartphone.
En Grande-Bretagne, Orange, la marque de France Télécom, va sortir des portables disposant d'un service multimédia. Londres, Laurent Boussier, Dominique Marotte.
Un show digne d'Hollywood pour une star en robe d'argent. C'était donc hier soir à Londres la présentation en première mondiale du dernier né des téléphones portables. Enfant légitime d'une rencontre industrielle entre Orange, filiale de France Télécom, et Microsoft, premier fournisseur mondial de services logiciels, le smartphone, puisque c'est son nom, est beaucoup plus qu'une simple évolution des téléphones déjà existants. Après le son, après le texte, c'est l'ordinateur et la vidéo qui entrent dans le téléphone portable.
Faire autre chose que téléphoner et envoyer des SMS est assez incroyable. C'est une nouvelle possibilité qui bouscule les habitudes de tout le monde. C'est l'ordinateur dans la poche, comme une prolongation numérique de nous-mêmes. Alors, perdre son téléphone, c'est se perdre. Mais pour utiliser un smartphone ou un téléphone portable, il faut payer un abonnement. À l'époque, il est assez fréquent d'utiliser les cartes prépayées qu'on achète dans des bureaux de tabac, par exemple. Mais si on veut un forfait de téléphone, on entre dans une boutique, on attend des heures, se dit au passage, et on choisit sa formule. 2 heures, 3 heures, 4 heures, avec ou sans engagement. Texto, appel illimité ou non, avec ou sans téléphone. Aujourd'hui, tout ce vocabulaire est habituel. Vous allez probablement payer une partie de votre téléphone portable d'un coup, puis étaler sur plusieurs mois la fin du paiement, en prélèvement mensuel, et vous vous engagez pour 1 an ou 2 auprès d'un opérateur. Pour 2 heures de communication, vous paierez environ 28 euros, 15 centimes par SMS de 160 caractères, et puis entre 39 et 80 centimes la seconde téléphonée au-delà de votre forfait. Clients captifs avant tous les autres, les ados. C'est le début de la folie des SMS. Envoyé spécial réalise une émission sur ses short message services en 2003. Nouveau phénomène.
Quand on est au téléphone, on ne sait jamais si maman passe à côté de ma porte, elle peut très bien écouter ma conversation. Donc c'est vrai que pour ça, le SMS, c'est mieux, puisque c'est plus discret.
En 2001, rien que chez les deux plus gros opérateurs, SFR et Orange, 2,5 milliards de SMS sont échangés. À titre de comparaison, et selon un rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques, plus de 45 milliards de textos ont été envoyés ou reçus en 2017 en France. Mais au début des années 2000, chaque caractère compte. Il faut essayer de faire entrer un maximum d'informations dans un minimum d'espace, donc avec une économie de caractères et de mots, sinon, gare à la facture.
Pour Lucie, la folie des SMS semble bien douce. Sauf quand tombe la facture, comme une piqûre de rappel.
Regarde. J'ai pas regardé le numéro, j'ai juste regardé l'addition.
Ah ouais.
Il y en a pour combien ?
Il y en a pour 93 euros. Donc voilà, c'est un peu beaucoup.
140 SMS au-dessus du forfait, rien de ça.
40, ça va, hein, j'ai fait.
Les parents et les adolescents font ce qu'ils peuvent pour respecter les règles dictées par les opérateurs. Par exemple, il existe des forfaits de téléphone où l'on peut choisir 3 numéros en illimité. Ou alors tous les numéros, mais entre certaines heures. Même chose pour les SMS. Tout est expliqué dans des catalogues et dans des publicités avec de petits caractères qui défilent à toute allure en bas de l'écran. Sauf que quelqu'un va se pencher sur ces règles de consommation assez peu remises en question jusque-là.
Tu sais, pour 99 francs, t'as 50 minutes de communication, une nouvelle carte SIM, pas d'engagement, 4 mois de forfait gratuit pendant 1 an.
Tiens, regarde, parce que là-bas, il y a une crêpe au fromage qui t'appelle.
Le nouveau kit pour ouvrir votre ligne vient de sortir. En vente partout chez votre marchand de journaux et dans votre espace SFR.
Formidable. Oui, mais. Et le déclic s'appelle Julien Tournion, de chez UFC Que Choisir. En 2001, il décide de regarder de plus près les factures de téléphonie mobile. Cet ancien professeur de Sciences Po est l'un des premiers lobbyistes de l'UFC. Alors, il décortique, analyse, regarde ses forfaits de 2 ou 3 heures. Et ce qu'il découvre est étonnant. Les 3 opérateurs utilisent les mêmes règles de facturation. La première minute indivisible et la facturation ensuite par tranche de 30 secondes. Concrètement, cela signifie que si vous téléphoniez 37 ou 6 secondes, vous étiez facturé 1 minute. Et si l'appel dure plus longtemps, au lieu de payer pour la durée réelle d'une conversation de 1 minute et 12 secondes, par exemple, vous payez en réalité pour 1 minute 30. Julien Bourgnon démontre que ce système rapporte près de 182 millions par mois aux opérateurs. Par ici la bonne affaire. Dans le détail, l'enquêteur de Quoi Choisir soulève deux lièvres. D'abord, il est faux de dire aux consommateurs qu'ils achètent un forfait 2 heures, puisque la facturation n'est pas à la seconde. Cela représente 25 à 30% de perte pour l'utilisateur. Et les trois opérateurs utilisent le même mode opératoire. Alors, y a-t-il entente? Y a-t-il cartel? Ce qui nuirait au principe de la concurrence, dont en principe le consommateur doit tirer profit. En février 2002, UFC saisit donc le Conseil de la concurrence. L'association se concentre sur le concret, là où elle a des preuves. C'est donc pour publicité de nature à induire en erreur qu'elle attaque. Puisque les opérateurs facturent toutes les 30 secondes, on ne paye pas vraiment pour 2 heures, mais pour 4. Cela peut paraître minuscule, mais c'est là que Bouygues, SFR et Orange réalisent leur marge. Il y a un décalage réel entre le temps passé au téléphone et le temps facturé. Alors, Julien Dournion et l'UFC proposent aux consommateurs de se retourner contre leurs opérateurs.
Nous leur conseillons d'écrire, de se rapprocher de leur opérateur et de leur dire, au départ, j'avais une première minute indivisible et ensuite j'étais facturé la seconde. Un appel d'une minute une valait une minute une. Aujourd'hui, c'est ce même appel, mais compté une minute trente. Vous n'avez pas le droit, je veux revenir aux conditions du départ.
Et la justice donne raison à l'UFC. Le 22 mai 2002, Bouygues et Orange sont condamnés à une amende pour publicité mensongère. Après cette condamnation, tous les opérateurs se mettent à facturer à la seconde. Mais dans cette histoire, ça n'est pas le plus important, non. Ce qui compte, c'est que les opérateurs soient condamnés une première fois, ce qui crée un précédent. C'est une première victoire, et ce sont les abus des acteurs de ce marché qui sont mis au jour. Voilà. Dit comme ça, on pourrait penser que l'UFC a obtenu ce qu'elle voulait. L'abus pointé du doigt a été réglé par la justice. Bien. Mais l'association ne s'arrête pas là. En novembre 2002, le MMS arrive sur le marché. On s'envoie désormais des photos, des vidéos et même de la musique pour 30 centimes l'envoi. Cette nouvelle possibilité, additionnée à l'arrivée du premier smartphone, envoie un signal fort. Le téléphone portable s'impose de plus en plus comme un outil de travail, de sociabilité obligatoire, mais tout cela a un prix. 540 euros par an pour SFR par exemple. UFC Que Choisir continue de scruter les chiffres et à nouveau quelque chose l'interpelle. Les marges sur le SMS sont astronomiques. En 2002, un SMS coûte 15 centimes. Il existe des forfaits illimités, mais qui sont très largement facturés. Parce que, sur les 15 centimes, l'opérateur marge à 80 ou 90%. Alors, l'association de consommateurs est déterminée à prouver que SFR, Bouygues et Orange se sont forcément mis d'accord. Ces messages courts rapportent de l'or et les prix n'ont pas changé depuis 1999.
Faut-il qu'il soit bien chargé? Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. J'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et les dangers. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. Que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. se sent bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous avions activé au moins jusqu'à demain.
Aujourd'hui, le cartel des opérateurs de téléphonie mobile.
France Inter, affaires sensibles.
Été 2003, un raid simultané conduit chez SFR, Bouygues Télécom et Orange. Les enquêteurs et enquêtrices perquisitionnent les locaux des directions générales jusqu'au plus haut niveau. Ordinateurs et liasses de documents sont saisis. À partir de là, la direction générale de la concurrence croise les éléments récoltés. Il faut essayer de prouver qu'il y a bien une entente. Mais depuis combien de temps et pour quel bénéfice? Le chiffre est important. Car c'est à partir de ce constat que l'amende sera fixée, jusqu'à 10% du montant au maximum. Cette enquête est secrète, mais en août 2005, Le Canard Enchaîné en fait état dans ses pages et publie des extraits du rapport qui a été rendu en mai 2004.
Le Canard Enchaîné le dit sans détour et parle d'un Yalta du portable. Orange, SFR et Bouygues se seraient partagés le monde de la téléphonie mobile. Selon un rapport de la Direction Générale de la Concurrence publié aujourd'hui dans le journal satirique, les trois opérateurs reconnaissent avoir échangé mensuellement depuis 1997 leurs données de marché sur la métropole. Des informations qui leur auraient permis de se mettre d'accord pour ne pas baisser trop les prix. Une affirmation aujourd'hui rejetée unanimement par les trois opérateurs.
Confirmé donc, Orange, SFR et Bouygues Télécom se sont accusés de se partager le marché comme un gâteau et de faire en sorte que les parts restent toujours les mêmes afin de garantir à chacun des opérateurs un revenu constant. Ils ont créé ce que les experts appellent une entente illicite. Pour s'organiser, les trois opérateurs se retrouvent plusieurs fois par an et échangent des informations sur leurs clients. Nombre d'abonnés et de désabonnés, grilles tarifaires. Dans un carnet de notes du patron d'Orange France, saisi pour l'enquête, et comme on vient d'entendre, on peut lire l'évocation d'un Yalta des parts de marché. Et comme ça, c'est clair. Du côté de SFR, un document manuscrit retrouvé sur le bureau du directeur général qui dit « Michel Bon, à la tête de France Télécom à l'époque, est OK pour reconduire en 2001 l'accord part de marché 2000. » En 2002, une note rédigée par un responsable de Bouygues précise à ses correspondants « Je vous rappelle que ces chiffres sont échangés entre les trois opérateurs à titre confidentiel. Ils ne doivent en aucune façon être communiqués à l'extérieur et notamment pas auprès de nos instances réglementaires. Autorité de régulation des télécommunications, ministère. » Le rapport de 128 pages, marqué d'un tampon confidentiel donc, et sans appel. Il conclut qu'il s'agit d'un accord occulte horizontal sur longue période qui vise à geler depuis l'année 2000 les parts de marché vis-à-vis des nouveaux clients. Ce rapport est déposé sur la table du ministre de l'Économie et de l'Industrie. Et cette histoire prend un tournant politique par le fait du ministre lui-même. Il s'agit de Thierry Breton, qui était président de France Télécom avant de recevoir son Marocain. Alors, était-il au courant de ces manœuvres? Y a-t-il conflit d'intérêts? En tout cas, son prédécesseur au ministère, Patrick de Vejean, attaque son successeur. Pour lui, cela ne fait pas le moindre doute. Thierry Breton était au courant. Les documents saisis en perquisition sont clairs. Et ce dernier se défend.
C'est vrai que, avant que je n'arrive, il y a eu une plainte en suspectant éventuellement une entente. C'est une éventualité, évidemment. Le Conseil de la concurrence, qui est une autorité indépendante, qui ne dépend d'aucun ministère, ni de Bercy, ni de quiconque, a décidé d'être autosaisi, donc, pour effectuer les enquêtes nécessaires pour voir si cette plainte, entre 1997 et 2002, était justifiée. Le rapport a été fait, et maintenant cette autorité va le juger. Si jamais il y a eu quelque chose, il faut le punir. S'il n'y a rien eu, il faut le dire. Donc les choses sont assez sereines. Vous savez, il y a un peu de polémique. On s'amuse ici ou là. Ce n'est pas moi qui gère le dossier des télécoms, c'est Monsieur Loos, le ministre délégué à l'industrie. Donc il n'y a aucune ambiguïté.
Autant dire que la passation de pouvoir entre l'ancien ministre de l'économie et le nouveau est froide. David Jean estime tout simplement que Breton n'est pas légitime pour ce ministère. Et cette histoire de tarifs de téléphonie mobile en est selon lui la preuve. Il demande à prolonger l'enquête jusqu'en 2004, histoire de prouver que Thierry Breton était au courant. Demande rejetée en 2003, il n'y aura donc aucune preuve d'implication du ministre. De leur côté, les trois opérateurs répondent immédiatement par des communiqués et dans la presse. Orange l'affirme, main sur le cœur, l'idée de pilotage du marché est totalement irréaliste. SFR, lui, conteste vigoureusement l'existence de toute entente ou d'un quelconque contrôle du marché. Le 26 août 2005, l'UFC parle pour la première fois d'une action en justice au nom des consommateurs et consommatrices. L'association annonce que si l'entente est confirmée, alors elle demandera une réparation au titre de l'intérêt collectif. La menace est réelle. Si l'UFC réussit à encourager les consommateurs à porter plainte, le montant des réparations pourrait être très élevé. Le 1er décembre 2005, le Conseil de la concurrence rend son avis sur l'entente de manière officielle. Et les trois opérateurs sont convoqués pour découvrir le montant de l'amende avant son annonce publique. À ce moment-là, 99,76% des abonnés français sont soit chez SFR, Bouygues ou Orange. Les autres opérateurs autorisés, ceux qui se partagent les miettes, c'est ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, arrivés sur le marché il y a à peine un an. Alors on dit virtuels parce qu'ils utilisent techniquement les réseaux des trois opérateurs historiques, mais ils n'ont pas d'autonomie structurelle. Autrement dit, ils ne possèdent pas de ligne propre. C'est un peu comme une location pour faire passer le réseau de leurs abonnés. Il y en a trois dans ce cas, Énergie, Débitel et Brise Mobile. Ils n'ont conquis que 108 000 clients en deux ans, sur un marché de 44,5 millions d'abonnés. Pas de quoi menacer les trois historiques. En 2004, Orange déclare un résultat de plus de 3 milliards d'euros, SFR de 2,3 milliards et Bouygues Télécom 550 millions d'euros. Plus concrètement, la marge est de 90% chez Orange, 55% chez SFR et 15% chez Bouygues Télécom. Ça veut dire qu'un Français dépense 37 euros par mois pour son forfait téléphone. Mais quand un marché est si rentable, il attire d'autres acteurs. Alors pourquoi sont-ils si peu nombreux? Eh bien, ce marché, si restreint, s'explique en partie parce que les fréquences de téléphonie sont des ressources rares. Peu d'entreprises pouvaient au départ investir les 11 milliards d'euros nécessaires pour créer les infrastructures. Alors que Bouygues, SFR et Orange avaient les reins assez solides pour se lancer dans l'aventure entre 1992 et 2002. Et puis tombe l'addition. 534 millions d'euros. Un record en France, où la dernière amende collective concernait le secteur bancaire, elle était de 174 millions et demi d'euros. Les trois opérateurs font appel.
Jamais en France, des entreprises n'avaient été condamnées à une telle amende. 534 millions d'euros. Une somme répartie différemment entre les trois opérateurs. C'est Orange qui écope de la plus lourde sanction, 256 millions d'euros. SFR devra payer 220 millions d'euros et Bouygues Télécom 58 millions d'euros. Une amende record car pour le Conseil de la concurrence, les pratiques des trois opérateurs ont causé un dommage grave et important.
En tout cas, cette annonce fait l'effet d'une bombe. UFC Que Choisir tient une conférence de presse et on retrouve Julien Dournion micro à la main. Selon lui, il est inadmissible que seul le Trésor public récolte une part de l'argent de cette entente. Il milite alors pour une procédure de class action à la française et Que Choisir se dit prêt de son côté à assister 40 000 personnes devant les tribunaux avec un site internet pour recenser les plaignants. Et six juristes y travaillent à plein temps. À 18h, le jour de l'ouverture du site, 18 000 demandes sont déjà enregistrées. Sur cartelmobile.org, tout un chacun peut créer une simulation du montant qu'il toucherait si l'action en justice fonctionnait. Par exemple, pour une personne qui a souscrit un forfait de 2 heures chez Orange entre les années 2000 et 2002, le préjudice peut être de 70 euros. Mais en 2004, les Class Action Action Group ne sont pas autorisés en France. Cela permettrait pourtant à un seul individu de représenter un groupe de consommateurs ayant subi un préjudice identique et provenant de la même entreprise. C'est le principe, mais pas chez nous. Qu'à cela ne tienne, l'UFC alerte trois tribunaux d'instance, Paris, Bobigny et Antony en région parisienne. L'association demande aux consommateurs d'envoyer par mail leurs factures. Un an plus tard, elle annonce avoir rassemblé 12 500 plaintes de clients qui demandent des dommages et intérêts. La bulle des télécoms a explosé, mais l'UFC est bien décidé à continuer le combat. De leur côté, les opérateurs réunissent leurs avocats et chargés de communication et la pression monte. La bourse va-t-elle réagir? Les clients vont-ils fuir? Orange prend les devants et commande un sondage Ipsos. Il en ressort que 43% des Français jugent cette condamnation légitime et 18% exagérée. L'entreprise joint aux factures une lettre, un argumentaire pour expliquer la condamnation et les tarifs. SFR décide d'envoyer un SMS à tous ses clients. Et pendant la semaine qui suit la condamnation, 50 dirigeants de la filiale de Vivendi qui détenaient SFR en 2005 se rendent dans les boutiques de l'opérateur pour désamorcer la bombe. Le journal Les Échos interroge SFR qui répond « Quasiment aucun client n'a posé de questions sur la condamnation. » Octobre 2006, un convoi de 4 fourgonnettes quitte les bureaux de l'UFC Que Choisir. À l'intérieur, 550 kilos de dossiers correspondant aux demandes d'indemnisation des clients de SFR, Bouygues et Orange, qui prennent la direction du tribunal de commerce de Paris. Pour chaque consommateur, l'UFC réclame environ 65 euros, soit environ 820 000 euros en tout. L'association est confiante. Elle a engagé 16 juristes pendant 10 mois, ce qui lui a coûté plus de 500 000 euros. Et elle se bat pour que cette procédure soit acceptée de manière urgente et exceptionnelle.
Une mise en scène devant la presse pour réclamer une réforme de la législation française.
Tout ça pour essayer quand même d'éveiller les consciences des hommes politiques, pour leur dire, attendez, mettez en œuvre enfin une procédure moderne, adaptée au contentieux moderne de masse lorsqu'il y a des litiges de masse.
En 2012, la Cour de cassation rend son avis. Elle valide l'amende et rejette les trois recours devant la Cour d'appel de Paris et les trois pourvois en cassation. 534 millions d'euros, ce sera donc le montant payé par les trois opérateurs. En revanche, en 2010, le tribunal rejette les 12 500 plaintes collectées par UFC. Plutôt pour une question de forme que de fond d'ailleurs. Il se trouve que la méthode de collecte des données par le site cartelmobile.org s'apparenterait de trop près à du démarchage, ce qui est interdit. L'UFC continue à se battre, aujourd'hui encore, pour que les class actions soient plus appliquées en France. Les actions groupes, si vous voulez. Elles sont autorisées depuis la loi Hamon de 2014, mais y avoir recours reste encore compliqué. L'autorité de la concurrence est donc engagée très fortement en actant une amende record. Mais ce n'est pas tout. Dès 2010, elle annonce qu'elle veut faire entrer un nouvel opérateur sur le marché. 2 ans plus tard, Free Mobile apparaît. Au départ, il est difficile de quantifier l'impact de ce nouvel arrivant, car les consommateurs sont toujours liés par des contrats engageant dans le temps avec les opérateurs historiques. Mais 10 mois plus tard, Free revendique déjà 4 millions 400 000 abonnés, soit 6% du marché. SFR, Bouygues Télécom et Orange sont obligés de baisser leurs prix et de donner plus de clarté sur les offres. Suite à l'amende, on peut observer que les prix des abonnements, des SMS et des communications en général ont déjà baissé. Et puis en 2014, l'UFC Que Choisir, encore elle, réalise une étude qui montre que les factures de mobile ont baissé de 30%. Ce qui représente un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 7 milliards d'euros pour l'ensemble des utilisateurs. Comme quoi, il arrive parfois que le pot de terre l'emporte contre le pot de fer.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
SFR, Orange, Bouygues, l'entente illicite. Notre invité, Cédric Musso. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'action politique chez UFC Que Choisir. Ça tombe bien, on va pouvoir parler aussi des activités de Que Choisir, cette association et cette publication si importante et si utile pour la société. Vous étiez déjà en poste, peut-être pas le même poste, mais vous étiez déjà chez UFC Que Choisir au moment des faits que nous venons de raconter?
Absolument, je suis arrivé à l'UFC Que Choisir un mois et demi avant la décision du Conseil de la concurrence et donc j'ai suivi celle-ci et le combat a posteriori, cartelmobile.org, pour obtenir malheureusement vainement l'indemnisation des 20 millions d'abonnés victimes, mais cette action, elle a permis de faire la preuve par l'exemple de l'impérieuse nécessité d'avoir en France une procédure d'action de groupe dissuasive et efficace. Vous l'avez souligné, on a bien une procédure qui a été instaurée en 2014 mais qui souffre de toute une série de défauts, de malfaçons. Et donc, on espère bien obtenir une nouvelle procédure bien plus ambitieuse et efficace. Et il y a d'ailleurs un texte de loi qui est discuté en ce moment même au Parlement.
Et on va y revenir. Mais je voudrais d'abord m'arrêter un petit peu sur les faits. Est-ce que vous étiez parmi les chauffeurs des camionnettes avec tout plein de documents?
Absolument. J'en ai conduit une et j'ai également porté les cartons. Et je peux vous dire que les 550 kilos, ce n'est pas du vent. Nous avons effectivement donné de nos personnes pour accompagner cette opération.
Mais quels souvenirs vous gardez de cette époque-là, de ce combat-là? Qu'est-ce qui vous interpelle quand vous y repensez et quand vous entendez le récit de votre propre scénario, finalement, scénario auquel vous avez participé?
Absolument. Bah, il y a tout à la fois de la nostalgie et énormément de fierté, parce que c'est quand même un grand fait d'armes que cette condamnation des opérateurs, condamnation historique, hein, le montant, il y en a eu des plus importants depuis, mais à l'époque, c'était véritablement le fait marquant, enfin, tout le monde en parlait. Il faut quand même aussi souligner que aujourd'hui, si vous interrogez notamment les jeunes, la plupart d'entre eux pensent que la téléphonie mobile, ça a toujours été peu cher. Or, s'il y a bien eu un poste de préoccupation au début des années 2000, pour l'UFC Que Choisir, mais aussi et avant tout pour les consommateurs, c'était bel et bien la téléphonie.
Mais les très très vieilles personnes comme moi peuvent témoigner.
Et au-delà des prix, il y avait aussi bon nombre de litiges, de conflictualités. Et ce qu'on ne dira aussi jamais assez, c'est la captivité dans laquelle étaient les consommateurs à l'époque.
Bien sûr, je le disais, ne pas avoir de téléphone, c'est se perdre.
C'est tout à la fois se perdre, mais de toute façon, pour avoir un téléphone qui coûtait excessivement
cher. Au tout début.
Au tout début, c'était la folie douce. Et donc, vous aviez le système des subventions au terminal, au téléphone, et qui vous enfermait dans des périodes d'engagement de 24 mois. Et donc, les abonnés étaient prisonniers de ces durées d'engagement. Et donc, quand la question peut être posée en disant « Mais pourquoi les gens n'ont pas résilié ?» Déjà, il y avait un contexte avec une entente qui faisait que, de toute façon, les prix n'étaient pas moins chers ailleurs. Mais c'est surtout que, quand bien même le quatrième opérateur est arrivé, il y avait toujours ces durées d'engagement. Et les consommateurs, dès lors qu'ils ont pu retrouver une certaine liberté, l'ont fait jouer. On a eu un des grands combats à l'époque qui était l'application des taux de TVA. Il y a eu un moment où, c'était en 2011, les taux de TVA ont changé. Et donc, il y avait une répercussion sur les prix. Et là, l'UFC Que Choisir a dit « Attention !» S'il y a une répercussion sur les prix, le consommateur, là, retrouve sa capacité de résilier. Voici des lettres types, n'hésitez pas, faites jouer la concurrence, libérez-vous.
Et encore faut-il que le principe de la concurrence soit respecté pour la faire jouer.
En 2011, là, pour le coup, ils étaient quand même extrêmement surveillés et il y avait des différences tarifaires. Et les consommateurs ont téléchargé des centaines de milliers de fois ces lettres types. Et face à la mobilisation massive des consommateurs, il y a eu un rétropédalage des opérateurs qui ont dit très bien, nous ne répercutons pas la hausse de TVA. Donc, quand les consommateurs retrouvent leur liberté d'action et font jouer leur pouvoir de marché, ils ont clairement un impact sur les opérateurs.
N'empêche qu'on peut se demander quand même, pourquoi ça a duré si longtemps dans cette situation? Après tout, la France adhère à un système capitaliste qui a ses règles, sur les cartels. L'Europe n'arrête pas d'intervenir dès qu'il y a un problème de concurrence, voire un tout petit problème. Mais là, tranquille, quoi.
Pour le coup, pendant des décennies, on était un peu les pionniers, mais je dirais presque les seuls à se battre contre les excès tarifaires, les tarifs prohibitifs des opérateurs. Vous avez souligné la multiplication des actions judiciaires avec, à l'arrivée, des victoires, mais à l'époque, y compris les hommes politiques, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Pour libérer les consommateurs des durées d'engagement, il a fallu une kyrielle de loi. Au début, on disait, très bien, pour libérer les consommateurs, on va mettre en place la possibilité de résilier au bout du 13e mois, mais il faudra payer au plus le quart des mensualités restant dues, plutôt que d'instaurer un système sans engagement pour que le consommateur puisse réellement faire jouer la concurrence et in fine, avoir des économies. Et on s'était dit également, parce que on a l'impression que le paysage à quatre opérateurs, il a toujours existé, mais pas du tout. Après la condamnation, il a fallu batailler pour obtenir cette quatrième licence et l'arrivée d'un quatrième opérateur. Ça a été la croix et la bannière d'obtenir cette quatrième licence. Et après, on nous a joué les sept plaies d'Égypte qu'allait s'abattre sur le marché, voire sur la France, parce qu'on allait détruire des emplois et compagnie. Bon, à l'arrivée, vous l'avez souligné, les factures ont fondu de 30%. On a évoqué le chiffre des 7 milliards. Deux ans plus tard, on a réactualisé ces 13 milliards de pouvoir d'achat qui ont été restitués. Ça n'a pas nuit aux investissements dans le réseau et ça a été créateur en plus d'emplois. Donc ce qui est bon pour le consommateur n'est pas forcément mauvais pour les entreprises. Et ça qu'il faut dire à chaque fois, on est là à nous dire, mais pensez à la compétitivité des entreprises. Ben oui, mais quand un marché fonctionne de manière sereine et saine, eh bien, l'ensemble des acteurs, y compris les entreprises, y gagnent.
C'est très clair.
Merci.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réaction d'entreprises qui serait pris un peu dans le même, même filet que les opérateurs mobiles réagirait différemment? Est-ce qu'on est vraiment dans une autre époque, là? Ou est-ce qu'il y a encore un risque?
J'aimerais tellement vous répondre, oui, il réagirait différemment. Malheureusement, là, ce qu'on a écouté avec les témoignages et la négation, la main sur le cœur, que, oh là là, non, pas du tout, les tarifs ne sont absolument pas prohibitifs, c'est à nouveau l'argument massue et l'argument légion. On l'a vécu quand on a dénoncé les marges exorbitantes au niveau de l'assurance emprunteur avec des banques qui font 90% de marge. On nous a répondu, mais non, pas du tout, c'est économiquement fondé, viable, eh bien pas du tout. On a reconstitué les coûts et à l'arrivée, eh bien des autorités de régulation ont constaté après nous qu'il y avait bel et bien des marges exorbitantes et qu'il fallait libéraliser encore davantage le marché.
France Inter. Affaires sensibles.
Cédric Musso, avant de continuer notre discussion sur les opérateurs et leur entente illicite, je reviens sur votre titre au sein du UFC, directeur de l'action politique. Dis donc, les choses sont claires. Hein. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je coordonne l'ensemble des services de la fédération UFC Que Choisir qui participent au combat de l'association et à la mobilisation des consommateurs, c'est-à-dire le service études et lobby, qui justement reconstitue les coûts des différents marchés et assure le service après-vente de notre position, de nos positions auprès des parlementaires du gouvernement, le service juridique, le bras armé de l'UFC Que Choisir, le service communication et aussi le service chargé des relations avec nos 133 associations locales qui sont implantées partout en France.
D'accord. Donc, comme promis, on parle des actions de groupe. Déjà, la définition juridique d'une action de groupe, c'est quoi ?
Alors, l'action de groupe, c'est la possibilité en un seul procès d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble des victimes d'une pratique illicite d'un professionnel et qui subissent un litige identique ou similaire. Vous devriez même faire affaire sensible sur l'action de groupe parce que le sujet est absolument passionnant.
Oui, mais il faut une histoire précise.
Ah, mais alors
toujours,
justement, l'histoire précise, c'est le lobby monumental du MEDEF contre l'instauration de cette procédure et qui n'a pas hésité à agiter une myriade de chiffres fond rouge en disant qu'on allait transposer en France la class action américaine avec toutes ses dérives, alors même que nous n'avions de cesse de dire il n'existe pas de procédure qui permette simplement, sans engorger les tribunaux, d'indemniser toutes les victimes du litige de masse. Parlons très concrètement. On a évoqué le cartel des mobiles.
Oui.
534 millions d'euros d'amendes qui vont dans les caisses de l'État.
Oui.
Au niveau des abonnés victimes, 20 millions d'abonnés victimes, préjudice moyen 60 euros par abonné, 1,2 milliard de bénéfices frauduleux. C'est-à-dire que les opérateurs ont retiré frauduleusement un bénéfice d'1,2 milliard et ont payé une amende de 534 millions d'euros. Et les victimes n'ont rien touché. Donc, in fine, on est dans un système sans action de groupe dissuasive qui participe à une forme de prime à la violation de la loi. Parce que quand bien même vous êtes sanctionné, vous avez quand même toujours un intérêt financier puisque vous gardez une partie du bénéfice frauduleux. C'est la raison pour laquelle on s'est battu pour obtenir l'action de groupe et arrêter avec ce chiffon rouge qui était dire ça va coûter un point de PIB. On a même exhumé une note du Trésor, la direction du Trésor qui n'est quand même pas la
l'administration la plus consumériste par excellence, mais qui disait que l'impact de l'introduction d'une action de groupe en France serait bon pour l'économie, parce que vous restaurez la confiance des consommateurs dans l'économie.
Et ils consomment.
Et ils consomment.
Et donc c'est un cercle vertueux.
C'est un cercle vertueux, absolument.
Donc, elles sont autorisées depuis 2014. J'ai cru comprendre que leur maniement n'était toujours pas simple.
Non, le maniement n'est pas simple parce que, alors déjà, on a une interprétation assez restrictive par les magistrats au niveau du champ d'application, mais c'est surtout que ça se limite au seul préjudice économique et qui doit être quantifiable individuellement. Mmh. Typiquement, au niveau des condamnations pour entente de l'autorité de la concurrence sur des produits de consommation courante, il y en a eu plein, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, eh bien, à l'arrivée, le consommateur quantifier son préjudice individuel, c'est mission quasiment impossible. Et quand bien même vous y arrivez, se pose la question des justificatifs. Qui aura gardé son ticket de caisse? Et quand bien même vous faites preuve d'un conservatisme admirable, l'encre étant effaçable, vous n'avez pas forcément la preuve sur vous.
Enfin, les relevés bancaires aussi.
Alors, il y a effectivement les relevés bancaires, mais après, vous avez aussi les délais procéduraux qui sont tels qu'à l'arrivée, qui aura archivé ces relevés d'il y a 10 ans? Donc, il y a toute une série d'imperfections et surtout, je le redis, le fait de le limiter au préjudice économique. On a vu passer une kyrielle de scandales, les scandales alimentaires ou autres, qui n'ont pas occasionné de préjudice économique. Le préjudice était moral, mais il n'était pas économique. Et donc, on a plaidé pour un élargissement et on a été entendu par les législateurs. Il y a une proposition de loi qui est actuellement au Parlement et on espère bien qu'on ait une action de groupe plus efficace à l'avenir. Encore une victoire de l'UFC Que Choisir.
Que faites-vous sur un autre terrain qui me vient à l'idée, là, sur l'obsolescence programmée, et pas seulement des téléphones portables, de tout? Ça, ça peut être un fléau pour le consommateur.
Alors, c'est un fléau pour le consommateur et l'environnement. Et l'UFC Que Choisir,
et oui, l'environnement,
on se bat
aussi, bien sûr,
pour une consommation qui soit responsable, c'est-à-dire qui soit respectueuse des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux. Par rapport à l'obsolescence programmée, on a quand même des ingénieurs, on a un département essai comparatif, et on a eu les plus grandes difficultés pour démontrer le caractère programmé de l'obsolescence. C'est pour ça que nous préférons parler d'obsolescence prématurée, c'est-à-dire qu'on n'évoque pas un programme qui serait à l'intérieur d'un appareil, mais c'est bel et bien tout un écosystème qui fait que vous êtes incité à racheter plutôt que réparer, parce que vous n'avez pas les pièces détachées, parce que il y a effectivement un défaut, pas forcément intentionnel, mais il y a un défaut et connu par le fabricant qui ne cherche pas à le remplacer, là il y a réellement un enjeu. Donc on se bat sur le terrain judiciaire également, à nouveau une victoire de l'UFC par rapport au Nintendo Switch. C'est Joy-Con quand vous jouez.
Console de jeu.
Et les consoles de jeu, quand pas mal de joueurs nous ont alertés en disant, au bout de 6 mois, la manette ne fonctionne plus. On a beau le signaler, on nous dit non, circuler, rien à voir. Et donc on a déposé plainte contre Nintendo, on a alerté les autorités nationales et avec nos homologues européens, on a saisi la Commission européenne. Et on a obtenu de Nintendo la réparation illimitée des manettes. Et on a indiqué, et la plainte normalement aussi est toujours en cours, qu'il s'agissait de sanctionner ces mauvaises pratiques. Donc sur l'obsolescence, l'UFC Que Choisir est dessus.
Est-ce que vous pouvez vous attaquer aux gros monstres, GAFAM, les plus puissants?
Mais alors, non seulement on peut, mais on l'a fait. On s'est attaqué aux GAFAM et plus particulièrement aux réseaux sociaux, puisque on a analysé les conditions générales des principaux réseaux sociaux et on a trouvé une quantité phénoménale de clauses abusives. Et donc on a attaqué pour clauses abusives illicites les 3 principaux réseaux sociaux et on a obtenu leur condamnation pour des centaines de clauses abusives et illicites. Donc c'est une victoire majeure qui a clairement souligné, parce que les tribunaux nous ont rejoint sur une donnée cruciale qui est que quand c'est gratuit, rien n'est gratuit dans la vie. Quand c'est gratuit, c'est que le consommateur est le produit. Et ça, les tribunaux l'ont souligné. On est très fiers de ces victoires. Là où il y a un sujet, et c'est par rapport à la condamnation à l'arrivée. Parce que le montant, en termes de dommages et intérêts, c'était 30 000 euros. 30 000 euros, c'était 17 secondes du chiffre d'affaires de Facebook à l'époque. C'est absolument rien.
Alors, vous avez fait état de vos victoires, vous c'est très bien, vous êtes là pour ça. Mais est-ce que vous avez eu des échecs aussi? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de combat que vous avez tenté de mener, ça n'a pas fonctionné?
Alors, en toute transparence, oui, sur l'assurance emprunteur, on a eu une victoire avec la libéralisation du marché, mais il y avait un autre scandale qui était celui de la participation des assurés aux bénéfices. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'assurance emprunteur était un marché extrêmement rentable, vu les marges exorbitantes, nous avons rappelé que, selon la loi, les assurés devaient être intéressés. Et donc là, on a bataillé et on a obtenu symboliquement le bien fondé de nos demandes auprès du Conseil d'État, mais faute de mesures réglementaires, nous n'avons pas obtenu la traduction pour les assurés, et donc cette restitution pour les assurés. Donc oui, les échecs, ils existent, étant entendu qu'en plus, les combats sont souvent des combats de longue haleine.
Oui.
Ça prend des décennies pour obtenir gain de cause.
De toute façon, si vous m'aviez dit « il n'y a pas d'échecs », je ne vous aurais pas cru.
Ah bah, ça, je me doute. Je me doute.
Bien, merci, merci infiniment,
merci hein,
Cédric Puisseau, pour toutes vos précisions et la clarté de votre propos. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cartel de la téléphonie mobile. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin.